Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Des grands espaces de l'aventure, le retour de Pékin Express avec Stéphane Rothenberg qui est avec nous en studio ce matin. Une saison de Pékin Express bien chahutée par le Covid. Il va nous raconter tout ça dans un petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Ganzmann et bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour,
merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
On est ravis. Alors, on voulait vous inviter pour Top Chef, mais enfin, on s'est dit que ça faisait beaucoup. Hein. Donc, on rappelle que Top Chef cartonne toutes les semaines. Et là, on va vous voir une fois de plus sur M6.
Le mardi et le mercredi.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Absolument.
Mais bon, j'ai laissé tout le monde en paix pendant des mois. Oui, c'est vrai. Deux fois dans la semaine.
Et avec le retour de Pékin Express, avec des images très impressionnante d'Afrique au début, à la fin, je sais pas, vous allez nous raconter ce tournage un petit peu compliqué. Ça commence ce soir à 21h05 et on va reparler dans un instant. Gilles, la question du jour.
Oh là là, la question du jour, c'est un grand débat. Je sais pas si vous avez suivi Stéphane Vivi dans The Voice.
J'ai suivi.
Oh là là, qui a chanté donc une chanson de rap et puis ensuite donc la chanson, elle était un peu compliquée, chanson d'Orelsan. Du coup, ils ont été fouillés son site Twitter, et sur son site Twitter, il y avait des tweets,
racistes, homophobes,
qu'il a eu à 17 ans. Évidemment, ça nous rappelle une autre histoire qui avait été dans The Voice, l'histoire de Menel. Donc, du coup, The Voice a pris une décision et ITV, le producteur, a pris une décision de se séparer du candidat. Vous ne le verrez plus sur TF1, il faisait partie de l'équipe de Vianney. Est-ce que vous pensez que TF1 a eu raison? C'est la question du jour de Twitter. Oui, à 24%, mais nos auditeurs en majorité pensent que non, TF1 aurait dû garder ce candidat.
Ça pose, ça tombe bien que vous soyez là ce matin, ça pose la question aussi du casting, de la responsabilité du casting. TF1, normalement, en plus, depuis l'affaire Menel, aurait peut-être dû aller fouiller, voir ce qui se passe.
Ouais, c'est assez surprenant, c'est difficile, parce que c'est vrai que c'est dur les castings, jusqu'où il faut fouiller, jusqu'où il faut remonter.
Oui, parce que...
C'est vrai que...
Ça sent un peu la vengeance quand même, parce que ces propos sont effectivement condamnables.
C'est-à-dire la vengeance.
2017, des tweets de 2017, qui va chercher des tweets de 2017? Faut quand même être assez tordu pour faire ça, non?
Non, mais je suis d'accord. Non, non,
et
non.
Puis, la production aurait peut-être dû le faire, effectivement, aussi, du coup.
Oui, mais c'est vrai que jusqu'où vous allez chercher, jusqu'où vous allez
Pékin Express, c'est un casting compliqué?
Alors, c'est un casting compliqué dans le sens où il y a 40 000 personnes, donc ça fait beaucoup de monde.
Comment on les départage?
Oui, on choisit, on n'arrive pas à gérer 40 000, hein, c'est trop compliqué, il faudrait des mois et des mois et des mois. Mais on regarde, alors c'est vrai qu'on ne fait pas d'enquête de police, hein. Alors c'est pas possible. D'abord, on n'en a pas les pouvoirs, les attributions et les moyens. Donc, c'est vrai qu'on fait le maximum selon nous. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours passer au travers de plein de choses.
Ouais,
c'est très difficile.
De 40 000, on passe à combien?
En fait, c'est qu'on se passe en
plusieurs...
Globalement, on traite par lot de 1 000 ou 2 000. Mmh. Et puis, tant qu'on n'a pas trouvé, on continue. Voilà. Mais on trouve assez vite.
Ouais.
Donc,
il y a des épreuves sportives, hein. Comme dans Koh-Lanta, ils ont des tests.
Le casting. Alors, dans Top Chef, ils cuisinent devant le jury de sélection pour être sûr que ce qu'ils ont proposé dans leur dossier correspond à leur savoir-faire. Parce qu'on peut toujours éventuellement.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas du tout dans Pékin. Pékin, c'est vraiment des rendez-vous téléphoniques, puis des rendez-vous, ils viennent dans les studios. Je ne sais pas si on fera ça cette année d'ailleurs, pour les voir vraiment physiquement, etc. C'est essentiellement des rendez-vous.
Ah, vous ne les faites pas courir.
Non, du tout. Et ensuite, en revanche, le médecin les voit.
Ouais,
et le médecin.
Pour voir s'ils sont aptes,
voilà. Et le médecin peut dire non sans qu'on ait la main. Et si le médecin dit non, on ne sait pas pourquoi, on ne sait jamais pourquoi.
Ouais, bien sûr.
Mais le médecin peut dire non. Voilà. Mais c'est la seule chose, le seul qui a vraiment qui va très très loin, j'allais dire, c'est le médecin sur le plan médical.
Et il y a un médecin sur Koh-Lanta?
Sur Pékin?
Oui, sur Pékin, pardon.
Deux médecins qui sont là
en permanence.
En permanence. Et c'est même plus, c'est qu'il y a un avion ou un hélico en fonction d'un endroit en stand-by à moins de 2 heures de nous.
Pour les assurances.
Pour être capable de débarquer s'il y a un souci. Ce qui nous a fait changer la route par rapport au passé, parce qu'il faut qu'on ait donc un aéroport, un camp de base, un hélicoptère en état d'alerte en permanence proche de nous. Donc on s'enfonce. Loin, mais toujours pas très loin d'une base.
Ouais. Allez, Gilles, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, Stéphane, un petit son pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité. Et oui, pour la première fois, on peut entendre un son martien. C'était hier sur toutes les chaînes infos qui se sont mis en édition spéciale pour l'occasion. Est-ce que ça valait le coup? Écoutez.
On revient maintenant sur ce son que l'on a entendu, qui est étonnant, qui est presque un peu effrayant dans certains cas. En quoi, et d'ailleurs, tiens, on va d'ailleurs le réécouter.
Je savais, Valérie, allez-y.
Non, rien.
Bah, c'est un souffle sur un micro. Bah, enfin, oui, c'est assez basique,
oui,
on peut tous
ça,
le faire.
Oui,
là.
C'est ça, oui, c'est un peu.
Beaucoup de bruit pour rien.
Oui, il y a du vent, il y a du mal.
Bravo, je n'osais pas la faire.
Après un petit son, du gros son maintenant avec les Punk Idiots, les Daft Punk, qui se séparent. Alors là aussi, retentissement incroyable, on le voit partout. Alors c'est vrai qu'ils avaient touché le Graal quand le 14 juillet 2017, eh bien, une fanfare interarmée l'avait joué devant la parade militaire. C'était devant un Trump impassible et un Macron joyeux. Toute votre jeunesse.
C'est vrai. Non mais moi qui voyage beaucoup, c'est vrai qu'on les entend partout. Dans beaucoup de pays, plutôt les pays quand même typés ouest ou latin que dans les pays asiatiques. Mais c'est vrai qu'on les entend beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'artistes français, il y en a, mais qu'on entend partout.
Ouais. Ça fait un moment, de toute façon, qu'on les entendait plus vraiment.
Mais oui. Ça fait un gros coup de com. On attend l'album hommage derrière.
Non, je crois pas. J'en sais rien. Mais ça fait drôle quand même.
Alors du coup, incroyable, chez les papis du bar de CNews, chez Pascal Pro. Bah, les papis, là, vous croirez ou pas, bah, ils ont fait un débat sur les Daft Punk. Alors, d'ailleurs, dites-moi, d'où ils viennent, les Daft Punk?
C'est tout. Est-ce que tu connais l'identité ou est-ce
non.
que tu as vu les visages de chanteurs professionnels?
Non. Ce sont des Parisiens, c'est tout ce que je peux vous dire.
Extraordinaire de ne pas s'incarner.
Ce sont des Parisiens, formés en 93 après une rencontre sur les bancs du lycée. Daft Punk a sorti 4 albums depuis 97, Random Access Memories, qui est peut-être le plus pointu. 4 albums majeurs avec lesquels ils ont innové et se sont chaque fois renouvelés. Peut-être est-ce vous Daft Punk, peut-être est-ce Yvan Rioufol.
Je parie sur Yvan Rioufol.
On ne sait pas.
Ah, c'est News et Daft Punk, c'était quelque chose. Un moment fort hier dans C'est à vous, Julie Zenati explique que lorsque vous avez subi un abus sexuel, ce qu'elle a subi, cela reste indélébile, quelles que soient les circonstances.
Mauvaise rencontre, très jeune, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'ai eu la chance d'être reconnue comme victime. La brigade des mineurs a été incroyable avec moi, il a été arrêté. Et puis mes parents ont été formidables. Et malgré tout, j'ai grandi avec une espèce de honte qui vous colle à la peau et vous savez pas trop d'où ça vient. Et on grandit avec ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les femmes ont besoin d'exposer ça au grand jour. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour avancer dans la vie que la honte. Et la honte, ça s'insinue dans tous les pores de la peau.
Voilà, même si ça s'était bien passé d'un point de vue juridique, la honte est restée. Puis pour finir, hier on en a parlé avec notre invité, c'était les 5 ans de questions pour un champion. C'était donc la fête hier sur François, sur le plateau. Et du coup, il y avait plein de messages, dont celui de Thomas Hill, vous savez, l'animateur de La Quotidienne. Drôle message d'anniversaire.
It's compleanion, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, c'est moi. Joyeux anniversaire.
Voilà, Samuel Etienne.
Quel est l'intérêt de ce son?
Comment?
Quel est l'intérêt de ce son? Non, mais pardon de vous tacler, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, aucun, mais aucun.
Eh bien, j'ai
intérêt.
Démarré par le son de Mars et je finis par un son tout aussi bizarre.
Voilà,
madame.
Absolument. Mais vous auriez pu vous en dispenser. Voilà, j'ai fait la maîtresse d'école à l'antenne. Allez, on va parler de Pékin Express. Bah, allez-y, oui. Petit jingle.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Stéphane Rottenberg qui est avec nous. Tournage de la 14e saison de Pékin Express qui a débuté le 5 mars. Ça vous rappelle quelque chose, 2020. Et vous étiez loin d'imaginer qu'une pandémie mondiale allait vous frapper, enfin frapper le monde, c'est le cas de le dire.
Oui, on n'imaginait pas du tout. On allait sur le Roi Lion. Hein. Nous, on allait en Ouganda. J'ai annoncé aux candidats, ce qu'on va voir à l'antenne ce soir, hein, une route qui passe par l'Éthiopie puis Dubaï, qu'on ne fera jamais. Et c'est vrai que, encore une fois, lorsqu'on part, on sait que ça s'aggrave un peu en Europe, mais le mot de confinement est encore une abstraction. Et c'est vrai qu'on arrive là-bas, il y a beaucoup moins de cas, quasiment pas de cas en Afrique. Donc on sait qu'on est globalement en sécurité sanitaire et on profite de ces paysages de rêve.
Les paysages sont somptueux.
C'est vraiment, on est dans le Roi Lion, toutes les images d'Épinal quoi, sur l'Afrique. Et voilà, c'est extraordinaire. Et puis on entend que ça s'aggrave en Europe. Et en fait, si on est rentré, c'est vraiment pour ne pas être enfermé dehors. C'est vraiment pour... Parce que Emmanuel Macron a fermé les frontières. Mmh. On a entendu à la radio, nous, parce qu'on n'avait pas la télévision française, mais on a entendu le message radio, lunaire, et que les frontières étaient fermées. Et donc, on ne pouvait pas finir le tournage en se disant, une fois qu'on sera terminé, on sera enfermé. Donc, toutes les fictions, il restait encore 2-3 tournages dans le monde au même moment. On est tous rentrés. Je parle de tournage étranger, il n'y avait plus de tournage français. Ouais. Mais il y avait un tournage américain qui était en Afrique du Sud, il y avait 2-3 choses. Et on a pris l'avant ou le dernier avion de ligne qui s'est posé de manière régulière à Orly. La France était déjà confinée. Ouais. L'aéroport était déjà quasiment fermé. C'est tout à fait surprenant de prendre le taxi qui ramène avec l'autoroute de
complètement vide.
C'était complètement lunaire.
Ça sera à l'antenne ou pas du tout ça ?
Alors oui, bien sûr. En fait, à un moment, on s'est dit, est-ce que dès le début, on raconte tout le truc ? En fait, on va vraiment raconter comme on l'a vécu.
Chronologiquement.
C'est-à-dire que là, exactement. Ça s'appelle la route des terres rouges. Je dis aux téléspectateurs, parce que je l'ai enregistré à l'époque où je pensais que c'était le cas, la finale c'est Dubaï, même si ça n'aura pas lieu. Et effectivement, à la fin de l'épisode 3, on va raconter...
Vous allez raconter voilà, ce qui se passe et pourquoi...
Et les 6 mois d'arrêt, et la route réécrite, et finalement, cette route Éthiopie-Émirats Arabes Unis qui sera finalement Grèce-Turquie. Alors, qui sont des pays qu'on avait déjà dans le radar. Ouais. Hein. Mmh. La Turquie, pour nous, c'était... En fait, la Turquie devait être la route de départ de la route de la soie qu'on avait imaginée, avec une fin à Shanghai. Bon, voilà. Finalement, voilà, on a utilisé la Turquie avant, mais on n'a pas regretté le voyage, je peux vous dire.
Il y a une interview à lire dans Le Parisien ce matin de votre producteur qui raconte quand même la course que ça a été pour adapter justement et puis la façon dont ça s'est passé. On va écouter la bande-annonce.
Beauté des paysages naturels, faune extraordinaire, vous allez emprunter les pistes les plus désertiques et les plus chaotiques de la planète. Bienvenue en Afrique.
Ah ouais, là c'est dur.
Oui.
Là on avait, ça va être très 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 compliqué.
Arrête de dire c'est fini, là c'est pas fini.
Ils sont déchaînés. Hein.
T'as voulu du Pékin Express, hein? Tu vas bouffer.
Pékin Express sur les pistes de la Terre Rouge. Ce soir, à 21h05 sur M6.
Voilà, avec des candidats, comme d'habitude, assez, comment on va dire, avec du tempérament. Il y a deux
poussés
Belges...
Poussés dans leur retranchement.
Voilà, il y a deux Belges tout à fait épatantes. Il y a alors des messages de nos auditeurs. Marie-Hélène dit, j'ai hâte pour nous changer les idées, parce qu'on a le moral complètement fracassé. J'adore Pékin Express. Et Gilles dit, bonjour, ce soir, je vais regarder, comme tous les ans, la nouvelle émission. En plus, car il y a des gens de mon village, les deux Catalans. Ils sont formidables. Petite question, à quand un Pékin Express spécial Europe ? C'est-à-dire, alors, ils vous donnent le tracé, du détroit de Gibraltar jusqu'au détroit de Bering. Ça fait une belle aventure, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, ils ne croient pas si bien dire, on y a réfléchi dans l'autre sens. Effectivement, nord-sud, la route européenne, on y pense toujours. On a vraiment, pour le coup, on le fait un peu, puisqu'on était en Grèce, en évitant la France, bien sûr, mais on y pense parce qu'effectivement, il y a des choses très différentes entre des Scandinaves et des Latins du Sud-Sud. Il y a vraiment déjà culturellement, enfin, les paysages. La route européenne serait très très belle. Alors, pourquoi pas ?
Alors, pour comprendre, vous êtes revenu en France au mois de mars.
Oui.
Là, vous vous confinez comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Et vous repartez cet été.
Exactement. En fait, on a bénéficié de cette petite accalmie. Enfin, on ne pensait pas que c'était une accalmie, on pensait que c'était le début de la fin. Mais rappelez-vous, cet été, on a quasiment vécu normalement. Et c'était vrai pour quasiment tout le monde. Alors, on a évité soigneusement le continent américain, parce que ça continue à s'aggraver. Mais il y avait des vraies fenêtres. Et en fait, on aurait, dans la réalité, avec le recul, on aurait sans doute pu terminer la route d'origine. Éthiopie, Émirats Arabes Unis, il y a même eu des Grands Prix de Formule 1 au Moyen-Orient. Mais en fait, le rapatriement avait été tellement compliqué, tellement coûteux, qu'on s'est dit, si ça referme, vaut mieux qu'on soit pas loin. Et donc, on a en urgence refait cette route, encore une fois, qui était déjà pré-repérée dans le passé.
Parce que pour créer des épreuves,
oui, on a quand même ça, on a quand même tout recréé. Ça a été quand même un vrai compliqué, vraiment compliqué. On avait 6 mois de confinement pour le faire. Donc, on l'a fait. Et parce qu'on s'est dit, en cas de pépin, il y a 1000 possibilités de revenir depuis la Grèce et la Turquie que depuis l'Éthiopie, surtout que la route éthiopienne était quand même très reculée. Bon, cela dit, en Turquie, à un moment, on est à 400 km de la frontière irakienne. Donc, s'il y avait eu nécessité de se rapatrier, ça aurait quand même été compliqué. Mais ça a été une route. À la fois, c'est sublime. C'est-à-dire que moi, ça a été un choc positif, la Turquie, vraiment. C'est-à-dire qu'on est en plein dans les tensions entre la Grèce et la Turquie, voire la Turquie et la France, au moment où on tourne. Il y a des avions, au moment, des avions de guerre, des F-15 américains, qui ne sont pas américains, mais qui sont des avions de guerre de l'armée turque qui passaient au-dessus des plateaux. Et alors que les gens nous accueillaient à bras ouverts. Avec le stress de la pandémie, mais c'est là où j'ai encore vu, encore une fois, il faut faire une différence entre le comportement des gens et leur régime politique. Ouais. Et qu'il ne faut jamais dire, oh, mais vous allez là-bas alors que le régime... Nous, on ne cautionne aucun régime. Et on va rencontrer les gens. Et alors, quel incroyable.
Ouais, des rencontres fabuleuses.
Mais les gens vous accueillaient facilement beaucoup, parce qu'en
Afrique... C'est plus dur. En pandémie, c'est plus dur.
Ce qui est chouette, c'est de voir les enfants, en tout cas dans ce premier épisode qu'on a vu, c'est toujours la joie des enfants quand ils voient arriver comme ça.
Ils ne
sont pas habitués par les gens, ils viennent les toucher, les voir. Et ça, c'est assez touchant.
Oui, alors ça va être très surprenant pour les gens, parce qu'encore une fois, le début du programme, c'est encore avant la pandémie, donc il n'y a pas de geste barrière. Donc les candidats se jettent sur moi quand ils ont gagné. Ils se jettent sur les locaux lorsqu'on les accueille. Bon, ça va presque nous surprendre. À partir de l'épisode 4, ça va changer. Les candidats, parce que les masques n'étaient pas obligatoires dans les pays, mis à part Thessalonique, je crois, un moment en Grèce et quelques quartiers d'Athènes, pas du tout en Turquie. Donc les masques n'étaient pas obligatoires dans les pays dans lesquels on va. Mais nous, pour ne pas être considérés comme cluster et ne pas être immobilisés en cas de... On était testés régulièrement, tout le monde était masqué. Et les candidats étaient masqués, on a des masques transparents, qui sont un peu étranges, parce que bon, voilà, c'est quand même plus joli, mais c'est quand même surprenant. Les candidats étaient masqués. Ça n'aide pas de faire du stop masqué.
Ça n'aide pas de réclamer le gîte couvert masqué.
Ça n'aide pas. Ouais. Mais ils y sont arrivés.
Il y a des candidats qui ont été obligés d'abandonner suite à un accident.
Oui, on a eu ça.
Donc ça c'est...
Ça, c'est notre
c'est
stress.
C'est votre hantise.
Toujours. On a été... on demande toujours aux candidats de demander aux locaux qui les transportent de respecter les limitations de vitesse. Ça a été vraiment fait. Là, c'est vraiment... Ils ont été victimes. C'est quelqu'un qui roulait trop vite, qui est arrivé en contresens. Donc forcément, ça a choqué. Ça, c'est toujours notre traumatisme. Le médecin a préféré arrêter les candidats. Tout est bien, qui finit bien pour notre équipe. Il y a eu un drame sur la route, en revanche. Alors, on est très peu au courant parce que ça ne nous regarde plus, entre guillemets. Les autorités nous ont absous. Ils nous ont dit, maintenant, le reste, ça ne vous regarde pas, ce n'est plus votre affaire. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'on a très vite, on s'est écarté. Voilà, c'est comme ça. Mais bien évidemment, ça fera partie de la course.
Ça fait partie des risques d'une course comme celle-là. Oui.
Depuis autant de saisons de Pékin Express, j'imagine que vous avez, vous, le vaccin, ça ne vous fait pas peur.
Non, alors je reconnais que non. C'est vrai que je sais qu'il va y avoir. J'imagine déjà une polémique en France sur le passeport vaccinal. Moi, j'appelle ça un carnet de vaccination parce que j'en ai un et je ne peux pas franchir des frontières. Il y a quantité de pays où vous ne pouvez pas rentrer. En Afrique, vous ne rentrez pas en Afrique si vous n'avez pas votre fièvre jaune, en Kenya par exemple, etc. Et parce qu'ils ont mis des années à l'éradiquer, ils ne vont pas avoir envie d'avoir des étrangers. Donc c'est vrai que moi, en tous les cas, culturellement, je comprends. Il y a quantité de pays. Quand je vais. L'encéphalite japonaise, la fièvre jaune, des trucs un peu exotiques que j'ai pas envie de choper et que donc je suis vacciné. J'ai fait aussi des choix, c'est-à-dire que je reconnais par exemple que la rage aujourd'hui, moi je me suis plus, j'avais un truc, ça dure 10 ans je crois, j'ai pas fait le rappel, parce qu'aujourd'hui si on se fait mordre, on peut avoir des piquures juste après et ça passe.
Donc, il faut être au bon endroit au bon moment.
Oui, mais moi je suis équipé sur mes tournages. Équipé, donc si vous n'êtes pas équipé, vaut mieux pas se faire vacciner.
C'est ce qui est obligatoire, vous dites, quand on va dans certains pays, quand on va en Afrique, on est obligé d'avoir des...
Mais je parle pour moi, je veux pas donner de leçons aux autres, mais je reconnais que moi j'ai aucun problème à cette idée de... parce que en fait, moi, j'appelle ça un carnet de vaccination et je le montre dans plein de pays. Je le montre quand je passe les frontières, quoi.
Mais là, vous allez être obligé de demander aux candidats d'être vaccinés contre la Covid.
On se projette. Il est vraisemblable, encore une fois, là pour le coup, on apprend en marchant. On est en train de réfléchir à la prochaine saison et il va falloir qu'on regarde. C'est évident que le vaccin va nous permettre de partir. Il est vraisemblable, mais encore une fois, pour l'instant, aucun pays n'a mis en place un protocole. Que j'imagine que pour les touristes, il va y avoir ça parce que il y a plein de pays où j'imagine que ça va être comme ça. Mais encore une fois, ça marche pour plein de maladies.
Et comment vous imaginez la saison prochaine? Alors, on est au début de cette nouvelle saison.
Non, mais on est déjà.
Oui, j'imagine que vous y êtes déjà. C'est ça va être compliqué, forcément.
Oui,
non
mais on regarde, on voit déjà que pour l'instant, il y a une vraie détente, entre guillemets, en Asie. On voit que bon, la Chine a une vie aujourd'hui quasiment normale, si ce n'est normale. Et beaucoup de pays voisins de la Chine ont déjà retrouvé une vie complètement normale. On voit qu'à l'inverse, l'Europe, c'est compliqué, que le continent américain, c'est tout aussi compliqué, parce que si ça s'améliore en Amérique, ça ne s'améliore pas ailleurs. On repère. Mais nous, on part dans 6 mois, 7 mois. Donc, voilà, on a encore le temps de voir comment ça évolue. Le problème, c'est que nous, on repère avant. Et donc, il faut savoir où repérer. Mais déjà, on voit qu'il y a des endroits où c'est, je ne vais pas dire de l'histoire ancienne, mais c'est comme du lait, sur le feu. Mais on a bien l'impression qu'il y a des pays qui sont déjà dans une autre phase, notamment en Asie. Voilà,
Il y a eu un petit souvenir de tournage que vous voulez nous raconter. Je ne sais pas, vous avez raconté une bête qui vous a mordu.
Non,
étonnante.
Alors, étonnante, je ne sais pas. Mais, je voudrais quand même... La Turquie, c'est la fin de saison. Ouais. Vraiment l'incroyable surprise que j'ai eue. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de prévention aujourd'hui sur la Turquie à cause justement des tensions qu'on a avec le pays. Et on a été notamment, donc la Cappadoce et Arcet, c'est des immenses villages troglodytes qui vont quasiment jusqu'en Irak et qui sont incroyables avec ces ballons. On voit souvent ces photos avec ces immenses ballons, etc. On y a été. On a fait comme ça et des épreuves complètement folles là-bas. Et on était tous émerveillés. Et on s'est dit, c'est fou parce que la Turquie faisait encore une fois partie d'une route potentielle qui était la route de la soie, mais on n'avait pas du tout prévu d'être en Turquie. Et cette année, et on s'est dit, finalement, comme quoi, changer notre route pour découvrir ça, pas de problème, tout bénef.
Vous êtes tombé vraiment amoureux de ce pays.
Oui, parce que d'abord, vous savez, quand vous dites, ça va être dur, il y a des tensions, on va peut-être être mal accueilli, et que vous êtes accueilli à bras ouverts, que c'est sublime. Qu'on mange bien. C'est bête, mais...
c'est important.
On prend... On est tous revenus, mais tous, les 140 de l'équipe, on est tous revenus avec des étoiles dans les yeux avec la Turquie. Et on s'est dit, vraiment, la géopolitique, quelle catastrophe. Parce que c'est vrai qu'il y a des tensions, des machins, des bruits de bottes. Alors qu'en fait, vraiment, c'est
génial. Les
peuples
sont formidables. Ouais. Vous avez pris des kilos. Avec Top Chef, ça se voit pas.
Alors, si. J'en prends sur Top Chef. Normalement, je perds sur Pékin, mais Moussaka grec, plus...
Les petits gâteaux.
En fait, là, c'est pas, ça marche pas.
Alors,
là,
vous en êtes à combien de kilos?
Non, ça va, mais 3-4, les 3-4.
Vous savez qu'on a reçu les jurys de Top Chef, qui dans 15 jours on recevra Paul Perret. Alors ils vous ont balancé, c'est vous qui finissez les plats.
J'espère bien. J'ai pas le droit de toucher aux assiettes du concours, mais une fois qu'ils ont goûté. Alors d'abord, je tape dans les casseroles, ça toujours.
C'est vrai ?
Oui, les casseroles. Une fois que c'est terminé, moi je suis le premier à arriver en cuisine quand je donne l'arrêt. Privilège. Donc. Il y a encore des choses sur le feu, il y a encore des petites choses. Et quand les dents parfois sont en train de ranger. Donc moi, je me précipite. Tac, 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 tac. Et ensuite, effectivement, les chefs, parfois, parfois ils défoncent l'assiette, mais parfois ils en laissent un petit peu. Voire ils m'en laissent un petit peu. Et j'en profite.
Voilà, vous avez été balancé carrément par Hélène Darroze et Michel Sarran. Ils ont dit c'est Stéphane qui finit les plats.
Vous savez, vous les voyez déguster, raconter du bien ou du pas bien. Et vous avez envie de confronter leur jugement.
Vous êtes un vrai gourmand, ça se voit. Vous allez regarder ce soir ou pas Pékin Express? Vous le regardez en famille? Comment ça se passe?
Oui, absolument. Là, je le regarde avec ma fille, exactement. Alors, parce qu'elle est curieuse de le voir. Comme je pose ma voix sur le programme, je le découvre quand même. Par exemple, en vous quittant, je vais aller mixer l'épisode 6.
Dire qu'on est
un petit peu en avance, on est content. Je le regarde. Je le regarde par
quand je peux. Et on le voit différemment
Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, en fait. Vous savez, c'est 17 caméras qui tournent. Donc, vous avez des retours, on a des réunions de rédaction tous les 3 jours, etc., où les caméramans nous disent « Voilà, ça, c'était génial, ça, c'était truc, etc. » Mais on ne l'a pas vu. Et le fait de le voir, alors encore une fois, c'est toujours un choix. Vous savez qu'on pourrait faire quasiment 3 épisodes différents sur chaque prime, parce qu'il se passe tellement d'aventures. On prévient d'ailleurs les candidats, avant les diff, d'ailleurs, je leur redis s'ils m'écoutent, « Préparez-vous, nous ne gardons que 1,5% de ce qu'on tourne. » Et oui, parce qu'on tourne 10 aventures de candidats, enfin 9 cette année, 8-9 cette année, et on va monter quelques nuits, quelques aventures. Et ils ont tous l'impression de vivre des choses incroyables. Ils sont tous persuadés que ça va être vu à l'antenne.
Ils sont frustrés ?
Comment se fait le choix ? On priorise quoi ?
En fait, c'est très difficile, et c'est des choix, et je peux vous dire qu'il y a des réunions sans fin. Alors, quand il n'y a plus que 2 ou 3 binômes, c'est beaucoup plus simple.
Au début,
on fait des arbitrages terribles, on va choisir un peu d'émotion, un peu d'humour, le cocktail de Pékin, quoi. Ce qui fait rire, rire, ce qui fait un peu pleurer ou émouvoir, ouais. Et puis garder un petit peu de choses. Il y a des binômes qu'on ne verra pas. Je vous le dis ce soir, préparez-vous. Il y a des binômes qu'on va à peine voir parce que il y a trop de monde.
D'accord. Vous êtes obligé de répartir.
On les voit comme ça, on les voit avec moi, on les voit faire un truc, mais on raconte pas tellement les histoires. Et plus les taux se resserrent, et plus on peut vivre vraiment l'histoire.
Et alors, ne loupez pas le début, zappez avant la pub parce que ça démarre dès l'avion.
Ouais,
et ça, c'est une première.
Et ça, c'est chouette. Oui, voir dans l'avion, c'est sympa. Merci à vous, merci Stéphane Rothenberg d'être venu ce matin. Les auditeurs, à votre question, vous avez déjà oublié, Gilles, ils répondent que TF1 a eu tort de virer leur jeune rappeur The Vivi. Voilà. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Merci à vous, à tout de suite.
Merci d'écouter Sud Radio.
Je suis sur Internet et franchement, je trouve que c'est la meilleure radio que j'ai jamais entendue.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
Alors, l'experte ce matin, c'est Claire Dalva, cofondatrice et présidente de Blockchain Partner. Je vous ai demandé de venir ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des crypto-monnaies. On entend beaucoup parler du Bitcoin. Et c'est vrai que quand on n'est pas forcément au fait de ces crypto-monnaies, on se pose beaucoup de questions, d'autant qu'on nous dit que c'est une monnaie d'avenir. Donc déjà, commencez par expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie.
Oui, alors une crypto-monnaie, c'est un actif numérique donc qui n'existe que sur Internet. Il n'y a pas de pièce physique, il n'y a pas de billet. Et avec cet actif numérique, on peut faire tout ce qu'on fait avec une monnaie traditionnelle, c'est-à-dire stocker de la valeur, s'échanger de la valeur, acheter des biens et des services, etc. La grosse différence avec l'euro ou avec le dollar, par exemple, c'est que ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des banques centrales, dans une sorte de boîte noire où on peut imprimer des billets un peu comme on veut. Ouais. Mais ce sont des monnaies qui sont gérées de manière transparente et décentralisée. Par des programmes informatiques gérés par des communautés.
Voilà, mais comment ça marche ? C'est-à-dire que cet argent, il est virtuel. Si je mets 100 euros, comment je suis garantie ? C'est la première question d'un petit épargnant. Comment je suis garantie de cet argent et de la valeur qu'il a ?
Bien sûr. Alors, en fait, l'argent, aujourd'hui, il est déjà virtuel. Vos euros, alors vous pouvez avoir des billets, bien sûr, mais la grosse majorité de vos euros, ils sont dans les bases de données des banques.
Ouais.
Donc c'est les banques qui se portent garantes quelque part de votre argent. Donc si vous avez confiance dans le système financier actuel, vous êtes bon. À la différence sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, c'est que ce sont des programmes informatiques qui sont répartis sur plein de serveurs un peu partout dans le monde. Et donc sur les plus grandes crypto-monnaies comme Bitcoin, c'est plusieurs milliers de serveurs, voire dizaines de milliers de serveurs qui stockent ces programmes-là. Et donc plus c'est décentralisé, plus il va y avoir de confiance dans ces fonctionnements, ces nouveaux outils.
Alors comment ça marche et comment marche la fluctuation, puisqu'on en a parlé à l'occasion d'une explosion de la valeur du Bitcoin qui est passée à près de 40 000 dollars, hein, c'est-à-dire 33 000 euros, avant de reperdre un petit peu comme en bourse. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin monte de façon exponentielle? On a vu des gens qui avaient investi 10 dollars et se retrouvaient avec 250 millions de dollars. C'est possible ça?
Alors, il faut avoir investi les 10 dollars très tôt.
Oui,
voilà.
C'est ça, voilà.
C'est possible. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui fait déjà sur la fluctuation du cours?
C'est l'offre et la demande. C'est comme les actions des entreprises. C'est-à-dire que si beaucoup de gens veulent acheter, le cours va monter. Si beaucoup de gens veulent vendre, le cours va descendre. Et donc après, il y a des phénomènes de communication aussi qui vont aider le cours à monter ou à descendre. Donc certaines annonces de régulateurs ou certaines annonces d'entreprises vont potentiellement inciter les gens à acheter ou à vendre. Là, on a vu dernièrement beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, investissent dans Bitcoin. Et donc aujourd'hui, c'est surtout ça qui fait monter le cours. C'est qu'on voit que Bitcoin s'institutionnalise là où il y a 5 ans, c'était encore un truc de geek, quoi.
Ouais.
On avait des lingots d'or, nos grands-mères avaient des lingots d'or et autres. Est-ce que l'or n'est plus du tout une valeur refuge et est-ce qu'on pourrait investir un peu ses économies dans Bitcoin ou il y a un risque de tout perdre?
Alors Bitcoin, c'est vrai qu'on le voit beaucoup comme l'or numérique.
Ouais.
La grande particularité de Bitcoin aussi par rapport à des monnaies classiques, c'est que Bitcoin est en quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, un peu comme l'or qui est en quantité limitée sur Terre. Et c'est pour ça qu'on assimile Bitcoin à une sorte de valeur refuge numérique, donc un peu comme l'or, mais plus pratique, puisque vous pouvez vous en envoyer beaucoup plus facilement.
Est-ce que ça peut exploser? Est-ce que ça peut être une bulle spéculative? Alors, c'est une question qu'on peut imaginer, de se dire qu'à un moment, tout ça va exploser.
Alors, je vous donne mon opinion sans que ce soit un conseil en investissement quelconque, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tendance, elle est haussière à moyen et long terme. Maintenant, elle est haussière, pas forcément de manière linéaire.
Ouais.
Donc, ce qui veut dire que ça peut très bien prendre 40%, puis perdre 30%, etc. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que si vous investissez dans Bitcoin, la meilleure stratégie, c'est en fait de pas y toucher, de viser long terme et pas forcément de jouer les apprentis traders et de regarder ce qui se passe d'un jour sur l'autre.
Vous le conseillez aux néophytes? C'est-à-dire à monsieur et madame tout le monde qui n'y connaissent rien, qui voient qu'effectivement, il y a des performances qui peuvent être intéressantes. Alors, c'est quoi les conseils que vous donnez à nos auditeurs ou à moi qui n'y connais strictement rien?
Ce que je conseillerais, c'est un peu comme, encore une fois, les actions en bourse, c'est-à-dire n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, parce qu'il y a toujours un risque de perte en capital. Moi, ce que je conseille, encore une fois, c'est d'investir sur le long terme, c'est-à-dire investissez un petit montant ou un montant qui correspond aussi à votre niveau de vie et attendez, visez long terme, faites pas comme les traders à court terme.
Acheter, vendre.
Sauf si c'est votre métier, bien sûr, mais c'est pas le métier de tout le monde.
On met par exemple 2000 euros et puis on attend 10 ans et qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans avec ces 2000 euros?
Alors,
je suis en train de consulter en direct.
Il y a des gens pour qui 2000 euros, c'est pas beaucoup, il y a des gens pour qui ce sera beaucoup. Donc,
non, mais prenons une valeur 100 euros. Si on met 100 euros, d'abord, un bitcoin, c'est combien? C'est 30 000 euros le bitcoin?
Alors, en ce moment, j'ai pas regardé ce matin, ça doit être plutôt autour de 40 000 euros.
Oui, 40 000, effectivement. Là, je vois la courbe, 41 000 mais même. Non, 39 852 euros.
Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'acheter un bitcoin entier. Hein. Le bitcoin est divisible en 8 chiffres après la virgule, donc vous pouvez mettre 15 euros si vous voulez mettre 15
D'accord.
euros.
D'accord. Et donc, si on investit 100 euros, c'est la question de Gilles, je pense, et qui vous prend pour Madame Irma.
Oui, voilà,
c'est-à-dire, combien on peut imaginer générer de bénéfices? Enfin, combien ça peut rapporter?
C'est difficile à dire.
En se basant sur le passé et sur ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut imaginer 50 000 euros ou 40 000 euros?
Par exemple, moi, je vais juste vous donner des chiffres factuels. Moi, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, c'était en 2015, et le bitcoin valait à peu près 400 euros.
Ouais.
Donc, si vous faites les calculs, on a fait un x100 depuis. Après, en ce moment, on est dans une hausse qui est assez spectaculaire. Donc, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Je pense que la stratégie long terme, elle reste très
intéressante.
Voilà, très probablement bénéfique.
Oui. Je vois une interview de Janet Yellen que vous avez peut-être vue, qui est la secrétaire américaine au Trésor, et qui dit que cette monnaie est extrêmement inefficace pour mener des transactions et qu'elle est souvent utilisée par la finance illicite.
Oui, alors c'est-à-dire que c'est... pour le coup, c'est un mythe. Il y a eu pas mal d'études, justement, par des entreprises spécialisées comme Chainalysis, qui ont montré que le pourcentage de transactions illicites sur Bitcoin, il est inférieur à 5%, c'est-à-dire encore plus faible que sur le dollar.
Oui.
Non, mais plutôt à 5%.
Pour rebondir sur la question de Valérie, on dit beaucoup que c'est la monnaie de blanchiment de l'argent, de la drogue, que souvent les rançons, on a reçu avec Valérie un spécialiste du hameçonnage et du rançonnage des hôpitaux actuellement sur les logiciels, ils se font payer en Bitcoin souvent.
Oui,
parce que c'est pas traçable, c'est ça ?
Alors si, en fait, c'est là aussi, on entend beaucoup dire que Bitcoin est anonyme et intraçable, mais c'est complètement faux. Justement, c'est des technologies qui sont très transparentes. Donc, on va pas forcément voir votre nom, votre prénom sur les registres dans les programmes, mais par contre, on va voir toutes les transactions. Et donc, si vous connaissez le numéro de compte, en gros, de quelqu'un, vous allez pouvoir remonter toutes ces transactions.
D'accord.
Donc, au contraire, c'est très traçable. Et du coup, quand il y a des ransomware, ce qu'on fait, c'est qu'on trace l'adresse à laquelle la personne qui a fait ça veut qu'on lui envoie les bitcoins.
Mmh. Sur la crypto-monnaie en elle-même, est-ce qu'aujourd'hui on peut payer en bitcoin ? Est-ce
qu'il y a... Alors oui, vous pouvez payer en bitcoin. Ouais. Alors Tesla a d'ailleurs annoncé récemment qu'on pouvait acheter des voitures en bitcoin. La majorité des magasins, des entreprises, n'acceptent pas forcément directement le paiement en bitcoin, même si ça commence à évoluer. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des services qui commencent à arriver, qui vous proposent par exemple d'avoir une carte bleue que vous rechargez en crypto-monnaie.
D'accord.
Et donc avec cette carte bleue, vous l'utilisez comme une carte bleue classique, donc vous pouvez payer dans des magasins sur Internet.
Est-ce qu'il y en a d'autres ? On parle de Bitcoin, mais vous êtes spécialiste des crypto-monnaies, donc ça sous-entend qu'il y en a d'autres ?
Oui, il y en a. Alors il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers. Toutes ne sont pas intéressantes. Il y en a beaucoup qui sont des copies de Bitcoin, plus ou moins bien faites. La deuxième, la plus connue, s'appelle l'Ether, qui fonctionne sur le réseau Ethereum. Qui là propose pas seulement de l'échange et du stockage de valeur, mais aussi de créer des applications décentralisées par-dessus, par exemple des applications d'assurance, des applications de prêt, etc.
Alors, remarque d'un auditeur avisé qui nous dit « Le Bitcoin n'a aucune contrepartie, aucune banque centrale ne l'assure, c'est un actif illusion. »
Oui, j'entends beaucoup ce genre de remarque.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Qu'en fait, une monnaie, ça se définit par la confiance que les gens ont en cette monnaie et par l'usage qui en est fait. Donc effectivement, derrière Bitcoin, il y a une communauté, mais surtout, il y a une confiance que les gens vont avoir dans cette monnaie.
Enfin, la confiance en l'argent, c'est très volatile, non ?
Bien sûr, mais derrière les monnaies traditionnelles, il n'y a pas non plus d'actifs tangibles.
Il y a une banque centrale qui assure, effectivement, qui garantit cette monaie.
Mais qu'est-ce qu'elle garantit ? Puisqu'aujourd'hui, les talons or n'existent plus.
Non, mais elle garantit vos dépôts, par exemple, sur vos comptes en banque. Si vous mettez 100 000 euros... Enfin, c'est garanti jusqu'à 100 000 euros, votre argent en banque. Donc,
les banques centrales, elles garantissent la monnaie d'un État, surtout, c'est ça.
Elles garantissent la monnaie d'un État, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, sur le dollar, il y a à peu près un cinquième des dollars en circulation qui ont été, justement, émis l'année dernière pendant la crise. Et donc, ces monnaies-là, qui certes sont garanties par les banques centrales, ont aussi une valeur qui s'effrite avec le temps, avec des phénomènes d'inflation qui n'existent pas tellement sur Bitcoin.
Et le risque des nouvelles monnaies qui vont se lancer, mon auditeur me dit également que Facebook veut lancer sa propre crypto-monnaie et dit que les banques centrales garantissent le taux de change aussi. C'est deux réponses différentes, mais...
Sur les monnaies privées, effectivement, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les États aujourd'hui. C'est qu'avec ces nouvelles technologies qui permettent de créer des crypto-monnaies sans dépendre de banques centrales, on a des entreprises privées, et c'est notamment le cas de Facebook avec sa monnaie Diem, qui se positionne là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Facebook, qui voulait autrefois indexer sa monnaie sur un panier de monnaies incluant l'euro, aujourd'hui ne va l'indexer plus que sur le dollar. Et donc, on se rend compte que ces nouveaux outils deviennent aussi des éléments de souveraineté monétaire et d'influence monétaire. C'est des nouveaux outils technologiques, finalement.
Comment on fait si on veut acheter des bitcoins ? On demande à qui ? On fait comment ? À sa banque ? Comment ça se fait ? Alors,
c'est peu probable que votre banque vous propose d'acheter des bitcoins, même si sait-on jamais ça. Ça évoluera
non, mais je vous pose
rapidement.
La question.
Si vous êtes en France, l'idéal, c'est d'aller sur une plateforme qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Il y a un label qui s'appelle le label de prestataire de services en actifs numériques. Et donc en France, il doit y avoir 7 ou 8 plateformes qui sont agréées. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Coinhouse, donc vous pouvez aller sur leur site web. Et là, on va vérifier votre identité, vous demander des documents, et ensuite, vous pourrez acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies avec votre carte bleue ou en faisant un virement depuis votre compte bancaire.
Je le fais sur une appli qui s'appelle Coinbase, ça doit être la même chose.
Qui est américaine, voilà.
Et il ne faut pas perdre son numéro de compte. J'ai vu une, dans les petites histoires, son mot de passe, parce que j'ai vu un Américain qui avait investi, je ne sais plus, alors c'était au tout début, genre $50. Aujourd'hui, il est à la tête de 250 millions de dollars et il ne retrouve pas son mot de passe et il ne peut pas accéder à, son, à ses bitcoins.
Alors, bon, je voudrais vérifier la véracité de cette histoire que je ne connais pas, mais c'est, théoriquement, c'est possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous avez des sortes de nouvelles banques. En fait, hein, si vous allez chez Coinhouse ou chez Coinbase, ce qui va se passer, c'est que la plateforme va vous proposer potentiellement de stocker vos mots de passe et donc de vous les redonner si vous les perdez. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec ces technologies-là, c'est que vous pouvez stocker votre argent numérique vous-même sans dépendre de la base de données de quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez les stocker sur une clé USB, qui s'appelle un ledger ou un bout de papier tout simplement. Mais c'est comme stocker du cash dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous le perdez, tant pis pour vous.
Tout ça échappe au fisc, hein ? On est d'accord. Pour l'instant, ils ne taxent pas le...
Si, rassurez-vous, en France, on a vite régulé sur la fiscalité, donc on est taxé sur les plus-values, à hauteur de 30%, si je ne me trompe pas.
Ah, d'accord.
Mais on ne peut pas amortir les pertes, évidemment.
Voilà. Donc, j'espère qu'on vous a donné un petit peu plus d'informations. Toujours cet auditeur me dit, le jour où le Bitcoin s'impose, la mondialisation sera achevée pour le pire et les États n'auront plus aucune souveraineté. Là, on rentre dans la géopolitique.
Oui, alors... pour le coup, je pense que si Bitcoin s'impose, ce ne sera pas la seule monnaie dans le monde. Il y en a plein d'autres. Donc, ce n'est pas parce que Bitcoin s'impose qu'il n'y aura que Bitcoin. Hein.
Très bien, merci. Merci à vous. Et coupure électrique, ça ne risque rien s'il y a un gros bug Internet où tout Internet s'effondre.
Alors, si tout Internet s'effondre, je pense qu'on aura d'autres problèmes que la crypto-monnaie. Hein,
Mais n'investissez jamais plus que ce que vous ne pouvez investir, quel que soit l'investissement que vous faites. C'est le message qu'on retiendra. Merci Claire Balva, cofondatrice et présidente de Blockchain Partner. Merci à vous.